Chez Best Drive, nous ne pouvons pas vous dire s'il fera beau sur la route des vacances. Mais quelles que soient les conditions, nous vous garantissons une route plus sûre. Avec un diagnostic sécurité gratuit, nous nous occupons de la révision de tous les véhicules, de votre clim, du changement de pneus. Rendez-vous sur bestdrive.fr.
Best Drive, votre confiance, notre exigence.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin, François Sorel.
Patrick Mulan.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 10 octobre 2020. Merci d'avoir choisi RMC et merci d'être là. Vous le savez, c'est le week-end des experts. On passe la matinée de ce samedi et de ce dimanche ensemble. Demain, 6h-7h, ça sera De quoi je me mêle. Et puis, juste après 3h d'auto avec Jean-Luc Moreau. Et en ce samedi matin, bien sûr, c'est, vous le savez, le week-end des experts avec tout à l'heure, entre 9h et 10h, vous le savez, Raphaël Grabli qui sera là pour la vie numérique. On évoquera numérique et transition écologique. Comment mettre fin à l'obsolescence de nos appareils tech au quotidien? Et puis, quid de ces offres? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a de plus en plus d'offres pour acheter des smartphones d'occasion ou reconditionnés. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a des pièges derrière tout ça? On verra ça donc tout à l'heure avec Raphaël Grabli. Comment bien protéger son pied et le soigner en cas de douleur? Ce sera notre gros dossier de ce samedi matin avec Christian Aikia, vous le savez. Puis on évoquera aussi les aliments riches. Ce sera notre rendez-vous nutrition de ce samedi matin. Les aliments riches en fibres pour préserver et améliorer notre santé. La maison, vous le savez, c'est avec Christian Pessé. On reviendra sur cette fameuse MaPrimeRénov. On vous dira tout avec Christian. Et puis, on évoquera les litiges dans la maison. Comment trouver un bon avocat spécialisé dans les litiges liés à la maison? Vous savez que ça peut arriver parfois. Dans quel cas peut-on faire appel à un avocat? On verra ça tout à l'heure donc avec Christian Pessé. Et pour débuter, en ce samedi matin, vous le savez, c'est le jardin. Le jardin entre 6h et 7h, c'est avec Patrick Mulan. Monsieur Miu-Miu, bonjour.
Monsieur François, bonjour à tous aussi. Et puis très très bienvenue au jardin. Vous avez parlé de Chantilly pour les courses. Ben de Chantilly, c'est aussi le grand week-end du jardin, puisqu'il y a les journées des plantes de Chantilly en ce moment, vous voyez.
Voilà, j'espère que les chevaux ne vont pas labourer le jardin des plantes avec leur beau sabot.
C'est quand même la ville du cheval, c'est vrai, il faut le dire. Il y a le musée du cheval.
Et bien sûr, bien sûr. Et puis c'est très joli Chantilly, plus, au-delà de ça. Et donc, cette heure entière dédiée au jardin, vous le savez, on est en direct. Elle est pour vous. Vous pouvez nous appeler et poser votre question à Patrick Mulan. Le 32-16, le standard RMC, l'appli RMC, Direct Studio. Vous pouvez à tout moment donc questionner Patrick, réagir à un sujet qu'on évoque ensemble. Et bien justement, de quoi allons-nous parler ce matin? Des camélias d'automne tout à l'heure. Ces camélias qui commencent à fleurir en ce moment.
Oui, il y en a même qui ont commencé à fleurir dès septembre. Et les camélias d'automne, c'est ceux qui fleurissent jusqu'à décembre.
Pas mal.
En fait, l'hiver commence le 21 décembre. Alors après, on aura les camélias d'hiver. Mais en ce moment, on a des camélias spécifiques et qui ont une particularité pour certains. Ils sont parfumés, monsieur.
Tiens.
Eh oui.
Alors vous savez quoi, je vais vous raconter ma vie. Patrick, vous connaissez bien mon jardin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un camélia qui était complètement fatigué, raplapla. Il n'y avait plus qu'un tronc. On était à deux doigts de l'enlever. Et là, qu'est-ce qui se passe? Me revoilà avec des pousses de camélia sur ce tronc qui semblait être complètement mort. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il nous lance un petit clin d'œil. Donc on va le laisser tranquille, on va voir ce qui se passe.
Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir.
C'est étonnant quand même, la nature.
Oui.
Et c'est ça qui est fascinant. Donc vos questions sur les camélias d'automne, dès maintenant, si vous en avez, peut-être même sur les camélias d'une manière générale.
La culture du camélia d'automne et du camélia du Japon classique est pas différente, pas beaucoup en tous les cas.
Voilà, donc le 32-16, l'appli RMC Direct Studio dès maintenant. Dans quelques instants, on va parler tondeuse aussi. Tiens, les bons gestes pour bien ranger sa tondeuse et la laisser faire dodo pour l'hiver.
C'est un sujet que l'on n'a jamais abordé.
Eh bien voilà, il était temps.
Bah oui, parce que c'est quand même régulier, chaque année, il faut quand même faire à peu près les mêmes gestes, et puis c'est pas si innocent que ça.
Eh bien voilà, la tondeuse et l'hivernage, ce sera dans quelques instants sur RMC. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous appeler 3216, l'appli RMC Direct Studio, 6h12. C'est parti, et on attaque avec vos questions. Jean est avec nous au 3216.
Allô, bonjour.
Bonjour,
bonjour
Jean.
Bonjour François, bonjour Patrick. Très bien votre émission, hein.
Oh.
Elle est un peu courte.
Ah.
Vous savez, c'est déjà l'émission de jardinage la plus longue de tout le PAF.
De tout le PAF.
Oui, mais on perd du temps avec la publicité.
Ah, Jean, mais vous savez...
ajouter plus, au moins 2 heures.
Et voilà. On comprend tout à fait, mais en tout cas, merci de nous écouter et d'être fidèles. Jean, ah ouais. Vous nous appelez de l'Hérault, c'est ça?
Oui, de 7.
De 7, d'accord.
Bon, j'ai 3 plants de vignes, du muscadin noir, d'Hambourg et du grenache. Ils sont pourris de mildiou. Avec les entrées maritimes, paraît-il. Bon, et à côté, je sème une planche de mâche très belle que je sème en août. Et cette mâche m'attrape l'odion. Elle se recouvre d'une chaudelure comme l'odion. Que puis-je faire pour les sauver? Pas encore, elles vont l'attraper dans un mois. Bah, je les mange quand même. J'ai raison ou pas?
L'oïdium, oui, est un champignon qui est superficiel. Donc, à partir du moment où on a bien lavé les feuilles, il est évident qu'on a fait disparaître la grande majorité de toute la partie de ce champignon qui, comme tous les champignons, peut émettre ce que l'on appelle des mycotoxines qui sont pas toujours très favorables à la santé. Et donc, effectivement, il est quand même assez déconseillé de consommer les plantes quand elles sont bourrées de maladies. D'autant plus que l'oïdium, par exemple, gêne énormément la photosynthèse. Et au lieu de récolter des salades de mâche bien vertes, bien vert foncé...
Il y a du fumier de boton dessous, hein, papayé.
Oh, mais ça a rien à voir. On a des plantes qui sont un peu faibles, qui sont un petit peu jaunissantes, etc. Donc c'est bon, quand même moins, à la limite, si Christian Riquia était là, on dirait que c'est quand même moins riche en éléments nutritifs. Alors, l'oïdium, on parlera du mildiou éventuellement après, l'oïdium est une maladie qui est extrêmement facile à combattre, puisque... surtout sur de la mâche qui se cultive en fin de saison, on peut utiliser le soufre qui est donc un produit minéral naturel et donc autorisé en agriculture biologique. Vous pouvez traiter au soufre. Autre avantage aussi, si je puis dire, par rapport à d'autres maladies cryptogamiques, l'oïdium étant superficiel, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez traiter, pas obligatoirement préventivement, vous pouvez appliquer le soufre dès que vous voyez les premiers feutrages blancs qui apparaissent.
Mais, bon. Pardon, oui. Mais pas du soufre à l'eau, hein.
Comment?
Du soufre à l'eau, je peux aussi.
Du soufre à l'eau?
Oui.
Bah, c'est-à-dire, vous allez acheter ce qu'on appelle du soufre mouillable. C'est-à-dire du soufre qui peut être délité,
voilà,
on le mélange
dans de l'eau.
À de l'eau, et on va le pulvériser avec un pulvérisateur. C'est quand même un produit que tous les agriculteurs, et notamment dans les régions de vignes, utilisent couramment. Oui. Donc ça, c'est pas du tout compliqué.
Non, mais il vaut mieux le soufre en poudre ou le soufre que l'on mélange avec l'eau?
Alors, si je me trompe pas, je pense que le soufre en poudre n'existe plus dans le commerce jardin ou va être interdit.
Je peux en avoir.
Parce que toutes les... Oui, mais moi, je suis obligé de vous parler de façon officielle. Il y a une interdiction très récente sur tous les produits pour poudrage. Parce que, justement, il y a une dispersion avec le vent, etc., des molécules qui ne sont pas concentrées, on va dire, sur le traitement. Donc, ce que l'on va trouver aujourd'hui, alors, c'est soit du soufre sous forme liquide, ça se trouve couramment, soit, je pense, encore de la poudre mouillable, c'est-à-dire de la poudre que vous ne pouvez pas pulvériser directement, que vous êtes obligé de mettre dans l'eau. Donc ça, ce sont les... Ça, en plus, le soufre aujourd'hui est le seul produit que l'on trouve pour lutter contre l'oïdium dans le commerce du jardin d'amateurs. Il a un autre avantage, ce soufre, c'est qu'il a un rôle non négligeable contre la prolifération des acariens, c'est-à-dire donc des araignées rouges.
D'accord. Oui. Eh bien voilà, Jean qui souffre avec ses vignes.
Vous avez raison. Alors on peut dire une seconde sur le mildiou, qui est aussi la maladie caractéristique classique de la vigne, qui doit lui être traité en préventif.
En préventif.
Et avec de la bouillie bordelaise.
Parfait. Jean, merci pour votre appel et merci pour votre fidélité. 6h17 sur RMC, est-ce que vous êtes prêt pour votre conseil, Patrick Mulan ?
Eh bien, on va faire ça.
Alors, on y va.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC, l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Ah, Patrick est venu avec sa tondeuse, mesdames, messieurs, de l'Essonne. Il est venu de l'Essonne avec sa tondeuse, il a pris l'autoroute avec, il a mis 4h30, mais il y est arrivé.
Oui, sauf que ma tondeuse, elle fait pas ce bruit-là.
Elle fait pas ce bruit-là,
c'est une tondeuse à batterie.
Ah oui, alors que là, c'est une tondeuse à hélicoptère, hein, Kevin, remets-nous un petit peu de son pour voir.
Moteur essence ancien, deux temps.
Vous avez vu un petit peu? C'est le Jean-Luc Moreau de la tondeuse, mesdames, messieurs. Il entend le moteur de la tondeuse. Il peut même nous dire presque le modèle exact.
Oui, et l'année, non.
Vous savez que Jean-Luc, parfois, nous impressionne.
Ah, mais moi, il m'impressionne.
C'est incroyable.
Ah, oui.
Allez, on referme la parenthèse. Donc, on évoque la tondeuse ce matin. Les bons gestes, Patrick, pour un hivernage sans problème.
C'est important, l'hivernage d'une tondeuse, parce que souvent, on va faire la dernière tonte en cette saison. Puis on va mettre la tondeuse un peu au rencard, n'importe où. Et puis au moment de redémarrer au printemps, ça veut pas.
Et voilà, ça
donc,
marche pas.
Et puis alors, en plus, on va dire que une tondeuse, c'est pas un outil qui coûte rien. Donc, si on veut qu'il vive longtemps, si on veut s'inscrire dans une espèce de développement durable, le mot développement durable s'applique aussi au matériel.
Sûr,
donc c'est quand même bien de prendre les précautions qu'il faut
pour la garder le plus longtemps possible. Et voilà, exactement. Alors avant toute chose, Patrick, on va parler un peu pelouse. Hein. Quand doit-on effectuer la dernière tonte de la saison?
Alors il faut absolument faire la dernière tonte avant la première gelée. Alors c'est vrai que par exemple, l'année dernière, il n'a pas gelé dans beaucoup de régions. Là, ici, vous allez voir avec la météo du jardinier, on n'est pas loin. Donc, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc, pour les régions du nord de la Loire, ou les régions, on va dire, de légère altitude, il serait bon de faire la dernière tonte à peu près maintenant.
D'accord.
Dans les régions littorales, dans le midi méditerranéen, en Corse, on peut presque parfois tondre toute l'année.
Ça dépend. Ah oui, bien sûr.
Quand la température ne descend pas en dessous des 10 degrés, vous avez une continuité de croissance. Donc, le truc, c'est de se dire, est-ce que ma pelouse continue à grandir ou pas? En ce moment, on est à la limite, si on prend la région parisienne, par exemple, la semaine prochaine, on aura systématiquement des levées du jour en dessous de 10 degrés, entre 6 et 10 degrés. Donc, on va avoir un blocage de croissance de la pelouse. Donc, il est bon de le faire maintenant.
Est-ce qu'on règle la tondeuse comme d'habitude pour la dernière tonte?
Non, on a tout intérêt à tondre légèrement plus haut. Alors, en général, on règle une tondeuse entre 3,5 cm. En général, 3 cm, c'est un peu trop court. On met 3,5 à 5, ça, c'est la tonte normale.
D'accord.
Là, vous allez mettre 6-7 cm de hauteur.
Ouais.
C'est quand même très, très bien. De manière à ce que...
Donc on la coupe moins, c'est ça?
On la coupe moins haut.
D'accord, on la coupe moins haut, ok.
Et d'une manière générale aussi, tiens, ça c'est un conseil, mais même pendant la période de croissance, on ne coupe jamais plus d'un tiers de la hauteur du gazon.
D'accord.
Parce que sinon, ça le stresse forcément. Et donc, on fait ça pourquoi? On fait ça à la fois pour que la pelouse reste relativement rigide. Parce qu'on pourrait se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'on tond pas? Pourquoi est-ce qu'on tond en ce moment? On pourrait
trouver on pourrait la laisser, même si elle est un peu longue, l'hiver, c'est pas grave.
Eh ben, justement, c'est un peu grave. Parce que si vous avez pu remarquer, l'herbe ne reste verticale, donc bien dressée, jusqu'à une certaine hauteur. Et la hauteur, c'est en moyenne les 7 cm dont je parlais. Quand elle est plus haute, il suffit à la fois du vent, des précipitations, pour que les brins d'herbe se couchent les uns sur les autres. Et dans ces cas-là, il y a une concentration de l'humidité avec un risque d'apparition de maladies cryptogames,
parce que
ça existe sur le gazon, et de jaunissement de toutes les parties qui vont être sous la couche superficielle.
Patrick, pourquoi on ne tombe pas l'hiver, tiens, aussi?
On ne tombe pas à l'hiver pour toutes ces raisons-là.
D'accord.
Et aussi, alors, il y a autre chose, c'est que dès que le sol a été gelé, par exemple, eh bien, si vous passez la tondeuse, les roues de la tondeuse vont s'imprimer, et vos pieds aussi, souvent dans le sol, et au lieu d'avoir un tapis vert assez régulier, ah vous oui. allez avoir une espèce de tôle ondulée bizarroïde.
Ouais, c'est bon. pas terrible.
Bah non, c'est pas terrible, terrible.
Bon, allez, on passe à l'hivernage de la tondeuse, après la dernière tonte. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière systématique, quel que soit le type de machine, Patrick ?
Alors, bah, c'est essentiellement d'abord le nettoyage. Alors, le nettoyage, il se fait dessus, évidemment, mais il faut aussi le faire dessous. Et là, c'est parfois un tout petit peu plus délicat, parce que la tondeuse, il vaut mieux la relever, surtout quand elle est à moteur thermique, hein, donc à moteur à essence, il vaut mieux la relever verticalement. On a tendance souvent à la coucher de côté. Alors, si on la couche de côté, il faut la coucher du côté opposé au carburateur. Pourquoi ? Parce que si vous couchez la tondeuse côté carburateur, vous avez de l'essence qui va rentrer dedans
et oui,
vous,
en fait, on va la noyer. Quoi.
Bah exactement. Vous noyez votre tondeuse. Bon. Donc, vous allez nettoyer le carter. Et ça, c'est important parce que vous allez constater que de l'herbe se colmate, se colle sur les parois du carter. Et du coup, au lieu d'avoir ce côté très lisse qui permet l'évacuation facile de l'herbe, soit vers le sac, soit le mulching, c'est-à-dire donc la coupe à plusieurs reprises des brins de gazon, eh bien vous avez cette pellicule qui bloque tout. Alors, et en plus, c'est corrosif. Donc c'est vrai que si vous avez de la fonte d'aluminium, par exemple, sur votre tondeuse en carter, c'est pas grave, ou s'il est en plastique, mais quand il est en acier, bah vous pouvez quand même avoir des problèmes de rouille par la suite. On va aussi graisser l'ensemble des parties métalliques articulées, c'est-à-dire généralement tout ce qu'il y a au niveau du manche, et surtout, j'allais oublier, les axes de roue. Ça, on va passer un petit peu de graisse. Et ça évite que pendant l'hiver, vous ayez justement des risques d'humidité qui viendraient créer une corrosion.
Oui, de la rouille, des trucs comme
exactement,
ça.
Hein. Voilà. Exactement.
Si ma tondeuse fonctionne avec une batterie, Patrick, que faut-il faire de spécifique ?
Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne laisse jamais brancher en permanence une batterie quand on n'utilise pas un outil. Pourquoi ? C'est pas pour la batterie elle-même, mais c'est que, d'ailleurs c'est facile à vérifier, lorsque vous laissez la batterie en charge, vous touchez la batterie, elle chauffe.
Eh oui.
Au bout des heures, des jours et des semaines et des mois, eh bien, la chaleur va augmenter. Ben, il y a risque simplement que ça prenne feu. Alors, bien sûr, il y a des systèmes de précaution normalement, mais c'est un risque que l'on n'a pas intérêt à prendre.
Oui, ça sert à rien de prendre le risque.
Voilà.
Et puis, en plus, on consomme de l'énergie pour rien.
En plus, vous consommez d'énergie pour rien, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pour que la batterie soit en pleine forme, il ne faut pas qu'elle soit stockée dans une température trop élevée. 15 degrés, ça serait idéal. Donc, on la met plutôt dans le garage. Alors, il faut la mettre hors gel aussi. Hein, mais on la met plutôt, on va dire, dans le garage ou dans le grenier. Alors, dans la cave, ce n'est pas génial parce qu'il y a quand même de l'humidité qui n'est pas terrible. Oui.
Très bien. Alors, et pour les tondeuses électriques filaires maintenant, parce qu'on a évoqué, c'est la batterie, mais les filaires.
Alors, il y a une chose qu'il faut savoir sur les filaires, c'est qu'on nettoie pas une tondeuse électrique au nettoyeur haute pression avec de l'eau, etc. Parce que le moteur électrique, lui, la seule chose qu'il craint, c'est l'humidité. Donc, on va plutôt passer un chiffon, bien nettoyer la tondeuse. Et après, il n'y a rien à faire. Alors si, faites attention quand même aux câbles. Ça, c'est un truc qu'on oublie toujours. La rallonge, vous savez, que l'on utilise, bah souvent, elle a été salie, etc. Donc ça vaut le coup quand même de la nettoyer.
Très bien. Pour terminer, Patrick, dans quel endroit de la maison dois-je stocker ma tondeuse ?
Bah, je vous disais plutôt dans le garage, plutôt dans un endroit donc relativement frais et sec. C'est là qu'il y a l'idéal. Alors, le conseil sur le stockage lui-même, ça serait, si on pouvait, de surélever la tondeuse. Par exemple, si vous récupérez une palette en bois, vous la mettez dessus, parce qu'il va y avoir de l'air qui va circuler. Si vous ne pouvez pas faire ça, au moins un carton pour isoler du sol, où il y a toujours quand même un petit peu d'humidité. Et encore une fois, c'est vraiment l'humidité qui est l'ennemi, on va dire, pour la tondeuse en général. Alors après, sur les tondeuses à moteur, on pourrait dialoguer très longtemps là-dessus. Il y a tout un système à faire, notamment il faut enlever la bougie, mettre un petit peu d'huile de lin, il faut vidanger l'essence parce que l'essence ne se conserve pas longtemps. Le mieux, ça serait quand même, je dirais, d'aller porter votre machine chez un réparateur de la marque, parce que lui, il va vous faire complètement la révision et vous permettre d'avoir une tondeuse impeccable lorsque vous allez redémarrer. Avec comme avantage le fait qu'en ce moment, ils ne sont pas surchargés de travail, parce que tout le monde ne pense à la tondeuse qu'au moment où on redémarre.
Alors donc, que c'est, voilà. C'est bien d'y aller maintenant. Patrick, il est 6h27, la météo, et on revient pour la suite de ce rendez-vous jardin, le 32-16. L'appli RMC Direct Studio. Je vois Jérémy Souliman très concentré sur sa météo. On va le retrouver dans une minute. Et puis juste après, les camélias seront là.
D'automne.
Les camélias d'automne. Vous avez des questions sur les camélias, mesdames, messieurs. Allez-y, on vous attend dès maintenant. 32-16, allez, on se réveille. 32-16 ou bien l'appli RMC Direct Studio sur votre smartphone. A tout de suite.
RMC.
Sur ta figure, un camélia bouge.
6h-7h.
Camélia,
votre jardin.
Patrick Mulan.
Offre-moi des roses et des camélias.
Et oui, Kevin sortit à peu près toutes les chansons qui existent avec le mot camélia à l'intérieur. Félicitations, congrats Kevin, it was wonderful.
Il y a Camélia Jardana aussi.
Il y a Camélia Jordana, évidemment.
Ça peut être un joli prénom, quand même.
C'est un très joli prénom, Camélia. On va parler Camélia maintenant sur RMC. Alors, avant de rentrer dans le détail des Camélias d'automne, je tenais à vous inviter à poser vos questions à Patrick. Profitez-en, on a forcément des questions sur les Camélias, les amis. 32-16, entre mon Camélia qui est en train de ressusciter, je ne sais pas pourquoi. Vous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils vont bien, vos Camélias? Parce que le Camélia, mine de rien, c'est... Je trouve que c'est un peu fragile quand même. Hein. Quand on n'aime pas trop le soleil, ça n'aime pas trop la chaleur.
Alors, c'est un peu capricieux.
C'est capricieux, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous voulez réagir, 32-16, l'appli RMC Direct Studio.
Alors, on dit ça parce que on essaie de les adapter dans des régions qui sont pas leurs régions de prédilection.
Mais, voilà.
Mais dans les pays, notamment dans les montagnes japonaises où ils poussent naturellement, je peux vous dire qu'ils ne sont pas capricieux du tout.
Évidemment. Vous voyez, par exemple, moi j'ai mon cousin qui est à Porto Vecchio, donc en Corse du Sud, qui essaie d'avoir des camélias.
Ah non,
mais...
ça c'est pas bon.
Et chaque année, je me moque de lui parce que son camélia est tout cramé, quoi. Il n'existe plus, c'est ça, mais parce qu'il n'est pas fait pour là, ça c'est clair. Donc, focus sur les camélias qui commencent à fleurir en ce moment, hein, Patrick, et selon les variétés qui vont s'épanouir jusqu'au cœur de l'hiver, et certains donc sont très parfumés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que l'on appelle couramment les camélias d'automne, tiens?
Oui, alors, bon, il faut savoir que le genre camélia, 82 espèces. Bon, c'est pas énorme, mais il y en a quand même beaucoup. Et on cultive essentiellement, sous le nom de camélia d'automne, l'espèce camélia sasanqua. Alors, on va faire tout de suite le jeu de mots. Ça sent quoi? Ça sent bon.
Ah.
Parce que, effectivement, magnifiquement, beaucoup de ces camélias, ça sent quoi, ont des fleurs parfumées. Alors que les camélias japonica, les camélias du Japon, même si camélia, ça sent quoi, est aussi japonais, ces camélias à très grosses fleurs, qui fleurissent plus tard, eux sont totalement inodores. Donc, l'intérêt principal, outre la période de floraison, en ce moment, il n'y a pas grand chose qui fleurit de façon abondamment, et puis surtout dès qu'on va arriver vers novembre. Donc, c'est bien d'avoir ça, et surtout, je peux vous garantir que certains de ces camélias adultes embaument. C'est-à-dire que quand vous êtes à 2-3 mètres,
vous
sentez
l'odeur.
Le parfum, vous êtes pris par ce parfum. Alors, c'est un camélia qui diffère du camélia classique que l'on connaît, donc camélia japonica, par des feuilles qui sont quand même plus petites et qui peuvent, notamment quand il fait un petit peu froid, avoir un rougissement, une teinte un peu plus acajou. Et puis, contrairement à ces camélias du Japon, donc à grosses fleurs très doubles généralement, là, c'est plutôt de la fleur simple que l'on a, plus petite, et puis avec un port assez différent, parce que autant le camélia du Japon est un arbuste compact, on va dire, autant le camélia d'automne, donc ça sent quoi, se lâche. Il a des tiges beaucoup plus souples, etc., avec une croissance qui est généralement aussi plus rapide. Alors les premiers camélias d'automne ont commencé dès le mois de septembre, et puis les derniers vont terminer vers la fin décembre.
Quelle est la couleur des fleurs du camélia d'automne, Patrick ?
Bon, on est comme sur la plupart des camélias en général, on est principalement sur du rose, alors dans toutes les nuances de rose, souvent des roses carnées d'ailleurs. On a du blanc et on a du rouge. Alors du rouge, on va dire plutôt du rouge rosé, avec souvent un beau bouquet d'étamines d'or bien doré au milieu, c'est sympa.
Et quelle dimension peut atteindre ce camélia ? Ça sent quoi, alors, dont on parlait tout à l'heure ?
Dans les cultivars que l'on trouve aujourd'hui, la tendance étant chez les obtenteurs de nous faire des plantes de plus en plus compactes parce que nous sommes de plus en plus nombreux à jardiner en ville dans des petites surfaces, on va dire que beaucoup se retrouvent en dessous de 2 mètres. Mais dans la nature, et même pour certains camélias, ce sont quoi plus proches du type botanique, on peut dépasser les 6 mètres, atteindre presque jusqu'à 8 mètres. Nous, on a quelques camélias, ça sent quoi, au jardin, qui font actuellement dans les 3 mètres, vous voyez, et qui peuvent vous faire des tiges de 50 cm dans l'année, quand même.
Alors, vous avez dit que le camélia, ça sent quoi ? Ça sent bon, mais quelles sont les particularités de son parfum, Patrick ?
Alors, ce qui est assez étonnant, enfin, du moins, quand on le sent, c'est que ça sent le thé au jasmin. C'est-à-dire, c'est vraiment un parfum jasminé. Alors, ça pourrait être curieux, mais je vous rappelle quand même que le théier, donc la plante qui nous donne le thé, est un camélia lui aussi. Le camélia de Chine, hein, camélia sinensis. Alors, certains experts en parfum trouvent aussi des nuances, alors sucrées c'est vrai, mais avec de la prune, alors franchement j'avoue que c'est compliqué. Et on dit d'ailleurs sur le plan étymologique que le mot « ça sent quoi » serait une variation phonétique d'un mot chinois qui dit « fleur de thé ». Donc on a ce côté un petit peu théier et thé au jasmin.
Alors on a dit qu'il y avait le « ça sent quoi », mais quelles sont les variétés les plus parfumées que vous pourriez nous recommander ?
Alors il y en a plein, surtout quand vous allez sur un site ou dans un catalogue de pépiniéristes spécialisés. Regardez bien que la précision du parfum soit donnée, parce qu'il y a énormément de variétés. Alors, dans les variétés qui ont un nom français, il y a Anne-Françoise, par exemple, qui a des grandes fleurs. Alors, c'est vrai aussi, j'ai pas dit, mais elles sont souvent gaufrées, les fleurs du camélia, ça sent quoi? Rose clair, lui, il fleurit dès septembre. Alors, vous avez Bonanza aussi, qui est rouge-rosé, un peu plus double, avec une longue floraison qui commence en ce moment et qui va peut-être aller jusqu'à janvier s'il ne fait pas trop froid. Et là, c'est vraiment le camélia à l'odeur absolument typique Bonanza. Alors, j'aime bien le nom aussi, le prénom est joli, Évangeline, très rose violacée, vous voyez, avec beaucoup de belles étamines, très parfumées, lui aussi de septembre, bon, il y en a plein, vraiment.
Où doit-on installer son camélia d'automne dans le jardin, Patrick ?
Alors, vous m'avez évoqué votre famille corse. Si on est dans la région méditerranéenne, il faut absolument une exposition ombragée.
Même pour l'hiver ?
Alors, oui et non. Parce qu'en hiver, non mais bon, à ce moment-là, disons mi-ombre, mais moi je me méfie sur l'histoire de mi-ombre.
Et oui.
Parce que, alors, si vous avez vraiment ce que moi j'appelle la mi-ombre, à savoir de la lumière tamisée, là, ça peut à peu près aller. À condition de doucher très généreusement la plante quand il a fait chaud en été. En revanche, pour les autres régions, celles qui ont une insolation normale, vous pouvez installer le camélia, ça sent quoi, en plein soleil. C'est une espèce qui est moins soucieuse de l'ombre que par exemple le camélia japonica, où là, même nous, dans la région parisienne, on va le mettre vraiment, lui, à mi-ombre. Donc, ça veut dire quoi ? Sous un grand arbre. Voilà. Et donc, dans les autres régions, oui, en Bretagne, par exemple, pleine lumière, ça lui va très bien.
J'ai un camélia en pot, c'est mon cas.
Oui.
Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois le protéger, par exemple, l'hiver, quand il gèle ?
Vous êtes en plein Paris, vous, François, vous pouvez le laisser tranquille. Dans les régions où l'hiver peut être assez rigoureux, à partir de moins 5, ça vaudrait le coup, pas de protéger la plante, mais de bien envelopper le bac.
Le bac, d'accord.
Avec du
voile hivernage.
Pourquoi ? Ouais, on peut prendre du plastique bulle aussi, ça marche bien sur les pots. Pourquoi ? Parce que les racines sont assez superficielles sur le camélia d'automne, et il ne faudrait pas quand même qu'elles risquent de geler, alors que sur un camélia planté au jardin, bah vous mettez une petite couche de paillis et vous êtes tranquille. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire et qui est capitale sur la réussite du camélia, jamais de courant d'air. Quand vous avez un camélia qui n'est pas mis dans une situation abritée, c'est-à-dire presque près d'un mur, eh bien, il faut s'attendre à ce que les boutons risquent de tomber avant l'épanouissement. D'accord. Et que je viens de parler d'un mur, c'est pas innocent. Parce que je vous disais que le camélia, ça sans quoi, fait des pousses assez souples. Eh bien, vous pouvez tout simplement le palisser sur un treillage. Alors, c'est du boulot, parce qu'il faut attacher toutes les branches, etc. Mais c'est tout à fait original. On s'attend pas à voir un camélia d'automne comme ça. Ça peut aussi se tailler en taupière, parce que ça se taille extrêmement bien après la floraison. On va dire vers le mois de mai. Enfin, pas juste après la floraison, il faut le laisser partir. Vous le retaillez et ça repart, je peux vous dire, c'est impressionnant.
Vos questions, alors sur les camélias bien sûr, mais toutes vos questions jardin sont les bienvenues. On est là jusqu'à 7h avec Patrick. Comment se portent vos camélias? Dites-le nous, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Et on va revenir dans un instant, météo du jardinier Patrick. Pascal sera avec nous, il va nous parler de son magnifique kumquat qui est en extérieur. Il veut le rempoter. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que bon, vous allez tout nous raconter.
Le mot magnifique, je mets plein de guillemets quand même. J'ai vu les photos.
Bah, écoutez, vous savez quoi? Vous allez régler vos comptes avec Pascal dans un instant.
C'est ça. Ouais.
Vous allez vexer mon auditeur là. C'est pas terrible hein, cette histoire. 3216, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite pour ce rendez-vous jardin. Ah ben la voilà, la camélia Jordana. Elle est toute mignonne et en plus elle chante tellement bien, Camélia Jordana. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, un petit peu plus de 7h moins le quart, c'est RMC, un grand bienvenue à vous qui venez peut-être d'arriver chez nous. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, vous pouvez à tout moment nous joindre, poser votre question avec votre numéro de téléphone s'il vous plaît. La météo du jardinier dans un instant, mais auparavant c'est Pascal qui est là.
Et bonjour Patrick, bonjour François.
Bonjour Pascal.
Voilà, donc j'ai compris que j'allais me faire engueuler très sérieusement.
Non, j'ai un peu l'impression, Pascal.
Non, pas du tout, mais je voulais dire que, j'ai vu plus joli comme kumquat.
Voilà, écoutez, j'ai envoyé des photos de mon kumquat. C'est un arbre que j'adore, ça fait 3 ans que je l'ai en extérieur, dans son pot d'origine.
Vous êtes dans quelle région?
Alors, je suis dans les Alpes de Haute-Provence, mais je suis à une très basse altitude, je suis entre Vignes et Sisteron, donc c'est à 300 et quelques mètres.
Ouais, mais quand même.
Ouais, mais quand même, l'hiver...
Les Alpes de Haute-Provence, c'est pas la région la plus douce de la France hein.
Non, c'est pas la région la plus douce, mais alors je le protège, parce que je le soigne, et l'hiver, je le couvre, mais on a rarement des hivers qui descendent en dessous de 5 degrés, et normalement, il tient jusqu'à moins 5.
Oui, il faut se méfier là-dessus, sur ce qu'on dit. Oui, ouais. Il y en a même qui disent que ça fait moins 10, mais bon, les agrumes en général...
Je vous entends très très mal, je suis désolé, je ne sais pas si c'est parce que c'est le portable, mais alors, je vous entends très très mal.
Pascal, vous savez, comme on est à la radio, l'essentiel c'est qu'on entende bien Patrick. Ce qu'on va faire, c'est qu'éventuellement, après on vous enverra l'enregistrement, mais nous on vous entend...
Oui, je le regarde dans mon podcast,
mais voilà.
Nous on vous entend, et je pense que l'ensemble des auditeurs nous entendent, parce qu'ici on a quand même des machines qui envoient très 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 bien. Oui, alors, j'ai trouvé une chose, c'est que je trouvais qu'il était exposé peut-être d'une façon un petit peu trop aérienne, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, notamment dans les Alpes de Haute-Provence, moi je mettrais quand même mon kumquat un peu à l'abri dans un angle de mur bien éclairé, mais pas complètement comme ça. En plus, j'ai été surpris qu'à son pied, il y ait une grosse touffe d'oxalis comme ça. C'est vrai que ça permet d'associer deux plantes en même temps, mais il y a concurrence évidente entre le kumquat et cet oxalis. Et je pense que la plante a besoin aussi de changer de peau, donc c'est quelque chose que vous pourrez faire à la sortie de l'hiver. Bon, il m'a étonné de le voir compact comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des belles pousses avec une plante qui a vraiment éclaté de santé, il est un petit peu chétif, un petit peu tristounet comme ça. Donc je pense que vous avez peut-être pas suffisamment nourri votre plante. Il faut se rappeler que les agrumes sont très 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 gourmands en nourriture et qu'il faut, notamment quand ils sont en pot, apporter de l'engrais régulièrement pendant toute la période de végétation. Là, est-ce qu'il porte des fruits ?
Alors écoutez, il m'avait fait, c'est ce que j'ai expliqué à votre collaborateur, il m'a fait une espèce de fumagine au début du printemps, ce que j'ai pas compris, c'est-à-dire que le bas des feuilles était couvert d'une
suie,
d'une espèce de poussière, comme de la cendre.
Oui, comme de la suie.
J'ai pas eu de cochenille.
Quand il y a de la fumagine, il y a obligatoirement des insectes piqueurs suceurs. Donc il peut y avoir de la cochenille, il peut y avoir du puceron.
Il y a eu des fourmis qui se sont armées sur une branche et pendant 3 mois, elles ont tapé que cette branche.
Parce qu'il devait y avoir des pucerons dessus. Les fourmis viennent récolter le miel à des pucerons. Alors, ça peut être ça peut être des thrips. Les thrips qui sont des insectes minuscules, donc ils sont plus difficiles à voir. Ce qu'il faut sur un agrume, parce que ça arrive très souvent, sur l'ensemble des agrumes, quand on a de la fumagine, on va déjà la nettoyer, on passe une éponge humide dessus, mais il faut surtout aller voir à la face inférieure des feuilles ce qui se passe pour voir si on a effectivement une attaque que l'on voit. Il n'est pas idiot de mettre un peu d'insecticide. Aujourd'hui, on a du pyrate naturel.
Je me suis dit que ce n'était pas du cochenille, parce que j'ai eu une fois une attaque de cochenille, il y a 3 ans, il y a bien résisté d'ailleurs, mais je l'ai traité. Aujourd'hui, vous savez très bien que les produits contre les cochenilles, c'est un peu difficile. Et puis, la recette du tabasco, nous donne qu'est sans doute une excellente recette, mais bon, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut à la maison. Et voilà, il a résisté à ça, mais il m'a fait ce truc-là au début du printemps. Les feuilles se sont assombries tout en pointe, et elles ne sont pas tombées, elles se sont remises en voûte, etc.
D'accord.
Alors je me suis entre deux, je taille.
Pascal, vous voulez rempoter ce kumquat ?
Oui, je veux le rempoter, bien sûr, parce qu'il est dans son pot d'origine.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il a besoin.
Il est intoxiqué dans son pot d'origine.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Patrick, là ?
Là, il n'a pas besoin d'être rempoté obligatoirement maintenant. S'il n'a pas de fruits en plus, donc il n'est plus vraiment en action de végétation. Il a plus besoin d'une énorme énergie, donc on va le rempoter vers la fin février. Donc dans un mélange de terreau et de terre de jardin. Le terreau pur n'est pas adéquat pour les agrumes, il faut le savoir.
Merci Pascal pour votre appel et bonne journée dans les Alpes de Haute-Provence. 6h52, la météo du jardinier. C'est parti Patrick, vous avez étudié les cartes de Météo France pour les jours qui viennent. Que va-t-il se passer ?
Il va se passer que ça va être...
Est-ce qu'on aura une semaine un peu plus agréable que celle qui vient de se dérouler ?
Pas très.
Non,
on est à peu près pareil. Alors, il y a un dicton quand même qui dit « Temps sec à la Saint-Ghislain nous annonce un hiver d'eau plein ». Alors aujourd'hui... Il ne pleut pas vraiment. Peut-être qu'on aura beaucoup encore d'eau d'hiver. En tous les cas, la semaine prochaine, ça va être bien humide. On est sur du vent plutôt... Alors, pas très très fort, sauf d'ailleurs dans la vallée du Rhône et sur la Méditerranée, où dès demain, le vent peut atteindre de 70-80 km/h dans certaines zones. Bon, pluie demain jusqu'à vendredi. Quasiment pluie tout le temps.
Oh là là.
Donc, sauf, encore une fois, sur PACA et sur le bord de la Méditerranée, des matinées relativement fraîches, hein, parce que il est annoncé mardi 0 degré sous abri à Gap. Oui, on est en Alpes de Haute-Provence, c'est pour ça que je disais à notre interlocuteur juste avant, là, les Alpes de Haute-Provence, c'est quand même pas la grande région de culture des agrumes. Souvent, il y fait très très froid. Et on aura du 7-8 degrés au lever du jour dans la moitié nord de la France. Donc ça veut dire quoi ? Les plantes les plus fragiles, style bougainvilliers par exemple, ça, il faut les rentrer. Les orchidées aussi que vous avez pu mettre dehors, ça serait pas mal de commencer à les rentrer. Moi j'ai vu au jardin, nous avons par exemple des cymbidiums, les ampes florales ont commencé à se développer. Donc maintenant, il faut mettre ça sous abri. En revanche, les agrumes, toujours dehors, mais vous pouvez les rapprocher des murs de la maison. L'intérêt de la pluie que l'on va avoir pendant toute cette semaine, c'est que ça continue à bien imbiber le sol, ça le ramollit, ça le rend plus facile à cultiver, à moins que vous ayez des sols extrêmement argileux. Dans ces cas-là, c'est le bon moment aussi de faire des apports de matière organique pour améliorer justement la structure et la texture de ce sol. Et puis, évidemment, on est dans la grande période de plantation, et puis notamment des bulbes. Là, les tulipes, les narcisses, les jacinthes, les crocus, les muscaries, les alliums, les fritillaires, tout ça, ça se met en terre maintenant. Alors, il va falloir passer entre les gouttes. Et puis, sur les récoltes aussi, on en avait parlé il y a quelques temps, je crois que c'était la semaine dernière, sur ce qui est récolte, eh bien, n'entreposez jamais des fruits, par exemple, qui sont humides, qui ont été détrempés. Il faut vraiment les laisser sécher avant de pouvoir vraiment les entreposer.
Voilà pour la météo du jardinier. Patrick, on va terminer avec les coups de cœur, votre coup de cœur de ce samedi.
Écoutez, j'étais pas plus tard qu'hier à Chantilly pour la fête des plantes d'automne. C'est une fête qui n'avait pas pu avoir lieu au printemps comme d'ordinaire en raison de ce que vous savez qui nous embête tous les jours, donc ce fameux coronavirus. Et aujourd'hui, il y a quand même une très très belle manifestation avec des pépiniéristes qui ont fait un effort énorme de présentation avec des couleurs d'automne, avec des vivaces de saison, etc. On ne pense pas suffisamment que l'automne est la meilleure saison de plantation pour tout ce qui est ligneux, c'est-à-dire donc arbres, arbustes, conifères, rosiers, plantes grimpantes, c'est le moment idéal. Mais qu'il y a aussi beaucoup de plantes vivaces qui sont extrêmement intéressantes en cette saison. Et là, vous allez en voir pas mal de spécimens. L'endroit est absolument magnifique. Et ce que j'ai trouvé aussi, alors je ne sais pas si c'est le coronavirus qui nous a fait ça, mais il y a une volonté de dialogue vraiment avec les pépiniéristes. Ils sont vraiment là à votre service. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Ils sont absolument charmants, évidemment compétents. Donc si vous êtes dans la région de Chantilly, n'hésitez surtout pas. C'est le bon moment pour aller vraiment faire les emplettes du jardin. Si vous préférez les fleurs coupées, vous pouvez aller à Chaumont-sur-Loire. Il y a une exposition de bouquets de très grand art qui est fait par des fleuristes top. Et ça, ça dure jusqu'au 13 octobre au domaine de Chaumont-sur-Loire.
Monsieur Miu Miu, on arrive à la fin de ce rendez-vous jardin. On sera là bien sûr la semaine prochaine, vous le savez. Le jardin de 6h à 7h tous les samedis. C'est exclusif RMC. À samedi, et grosse bise à Nicole.
Voilà, la bise à mes jardinières, surtout mes deux petites jardinières de la maison, mais toutes les jardinières aussi. Puis un grand coucou à monsieur Christian Pissel.
Et de même pour notre ami Miu Miu et pour François.
Et bien sûr, mon cher Christian, on se retrouve dans un instant pour revenir évidemment dans notre rendez-vous maison sur MaPrimeRénov'.
On n'a pas fini. Hein.
Non, on n'a pas terminé.
Et toutes vos questions. C'est une saga.
Toutes vos questions bricolage maison, dès maintenant, 32-16, à tout de suite.